C'est une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur dans les villes, celle du compostage collectif. On voit en effet ces dernières années se développer dans de nombreux quartiers des sites dédiés au recyclage des biodéchets. Et il existe même un métier, celui de maître composteur, qui a émergé en France. Et c'est justement le métier de Jean-Jacques Fasquelle, qui a été pionnier dans ce domaine en lançant il y a un peu plus de 10 ans un compost au pied de son immeuble. En quoi consiste le compostage urbain? Comment bien composter? Quelles sont aussi les limites de cette pratique? Vos questions à mon invité au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Camille passe au vert dans quelques minutes.
Et les candidats à la mairie de Paris plus écolos les uns que les autres.
Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Nicolas, un auditeur de Grenoble qui parcourt les Alpes en parapente pour mesurer les taux de pollution. Et puis un nouveau feuilleton qui va nous emmener toute cette semaine en Islande et au Groenland avec vos reportages. Guy Vanctil, bonjour.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis allé voir comment on vivait dans un monde qui fond. Quand on aux premières loges du réchauffement climatique. Première étape en Islande où on commence à commémorer les glaciers disparus.
A tout à l'heure, Guy. Et puis enfin, notre invitée découverte, la journaliste Inès Léraud, publie une enquête sur les algues vertes sous forme de bande dessinée. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisée aujourd'hui par Céline Hila.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Le compostage, dont nous parlons, consiste à récupérer certains déchets pour fabriquer du compost. C'est un engrais qui n'utilise pas de produits chimiques et qui aide les fruits, les légumes et les plantes à pousser. Le compost, c'est aussi chouette qu'un tour de magie et plus merveilleux que la poudre de perlimpinpin.
Bonjour Jean-Jacques Fasquelle.
Bonjour.
Vous êtes donc maître composteur et consultant formateur en prévention des déchets. Vous avez été l'un des tout premiers à installer un compost collectif en bas de votre immeuble dans le 12e arrondissement à Paris. Morgane, tiens, je vous donne déjà cette réaction sur Facebook, nous dit « Moi, le terme de maître composteur me fait peur, je ne l'aime pas. Y a-t-il pas d'autre façon de parler justement de ce métier ?»
Bah, chaque métier a un nom. Moi, je trouve qu'au contraire, il donne une certaine noblesse. On est des artisans, voilà, puis on maîtrise un geste ancestral. Donc, non, au contraire, je trouve qu'il est plutôt romantique.
Ouais. Et c'est ça justement, vous nous rappelez qu'en fait ce geste, cette pratique, elle est très très ancienne et même en ville d'ailleurs.
Elle est effectivement ancestrale, vous l'avez rappelé ce matin dans votre chronique, hein. Autrefois elle, effectivement les gadous parisiennes partaient amender les sols des jardins de Montreuil. Donc aujourd'hui on réinvente un peu la pratique, on la modernise quand même un tout petit peu, néanmoins on est dans des gestes très très simples qui sont les mêmes que ceux d'autrefois.
Voilà, et puis c'est un geste rural qui se fait encore, qui n'a
oui,
jamais
alors,
cessé.
Le paradoxe aujourd'hui c'est que parfois, les maîtres composteurs parisiens ou des villes vont expliquer comment on fait du compost à la campagne, parce qu'on a perdu quand même l'habitude d'en faire aussi à la campagne. Hein, on s'est cru moderne en abandonnant cette technique.
Comment on devient alors maître composteur exactement? C'est quoi votre parcours?
Alors moi, mon parcours, c'est à 40 ans, une genre de crise de sens. Hein, je me pose des questions. À l'époque, j'étais directeur de Bercy Village. Et je remets un petit peu tout à plat. Je comprends que le paradigme qu'on m'a vendu ne peut pas fonctionner. Donc je change mon alimentation, ma banque, mon fournisseur d'énergie. Et je me pose la question de mes déchets, puisque c'est quelque chose qui revient quand même tous les jours. Et puis je me dis qu'on pourrait effectivement composter ses biodéchets en bas de son immeuble. Au début, mon idée, c'était plutôt de le faire dans les parcs et jardins. J'ai vu que c'était pas mûr à l'époque, hein, il y a 10 ans. Et puis, je tombe sur un retour d'expérience de Rennes Métropole, qui, dès 2006, l'avait mis en place. Donc, j'ai fait une genre de copier-coller que j'ai proposé à mon bailleur Paris Habitat et à la mairie d'arrondissement. Et après beaucoup de palabres, il a fallu rassurer, puisque ça ne s'était pas encore jamais fait à Paris, on s'est lancé dans cette aventure et au début j'étais un bénévole passionné par ça, mais j'étais déjà consultant formateur en développement durable et c'était une illustration parfaite de ce que je professais au quotidien, donc je me suis formé et puis c'est devenu mon métier.
Mais vous avez trouvé une formation en France?
À l'époque il n'y avait pas de formation en France, j'ai été effectivement en Belgique au comité Jeanpin pour me former. Depuis, de l'eau a coulé puisque aujourd'hui il y a plus de 50 organismes qui forme au compostage en France, dont le mien, bien évidemment.
Voilà. Il y a 300 maîtres composteurs dans notre pays.
Il y a à peu près 300 maîtres composteurs.
Mais c'est un métier qui est retenu, il est reconnu, diplômant.
Alors oui, puisque l'ADEME a créé un référentiel métier où il y avait des formations très disparates. Donc il y a quelques années, il y a des fiches métiers qui ont été éditées. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un métier qui est reconnu. Et dans certaines fiches de poste, vous pouvez trouver effectivement la demande d'un maître composteur, notamment dans les collectivités.
Jean-Jacques Flasquel, vous habitez un grand immeuble hein, dans le 12e arrondissement, puisque vous me disiez il y a combien de logements ?
540 logements.
Voilà, donc c'est énorme. Est-ce que ça a été simple de convaincre justement la copropriété d'amener ce compost collectif
en l'occurrence, c'est un bailleur social, donc c'est un peu comme partout, c'est-à-dire qu'il faut rassurer, il faut expliquer les choses, expliquer que ça ne va rien coûter en général, puisque la plupart des collectivités financent et le matériel et l'accompagnement, et puis surtout rappeler que un compost bien mené ne sent pas, hein, puisque c'est toujours la première peur
des gens. C'est la question des odeurs.
Avoir un pourrissoir. Donc, un pourrissoir au fond du jardin n'est pas du compostage. Hein. Il y a un mode opératoire, des règles d'or à respecter et qui font que le compostage se passe très bien.
En particulier si on y met du végétal, hein, parce que si on y met des déchets animaux, la question des odeurs change. Hein.
C'est important de rappeler quand même que dans l'absolu, tout ce qui est issu du vivant peut se composter, mais c'est vrai que dans beaucoup de villes, en général, on exclut la viande, le poisson, parce que ça peut être un petit peu plus odorant et un peu plus sensible et ou attirer les rongeurs. Mais certaines collectivités ont fait d'autres choix et à ce moment-là on met en œuvre un mode opératoire qui fait que ça se passe bien. Moi j'ai une maison à la campagne, je peux vous assurer que la viande que je ne mange plus mais que je cuisine pour les autres, s'il en reste, je la mets tranquillement dans mon composteur. Donc on va recommander aux néophytes de ne pas peut-être la composter, mais dès que vous maîtrisez bien le geste, pourquoi pas.
Alors votre métier, ça consiste en quoi exactement ?
Alors mon métier, il y a quatre grandes missions. La première, c'est de faire de la formation. Alors je forme à tous les types de compostage, différents publics, ça va du chargé de mission collectivité dans une collectivité à des professeurs et aussi des particuliers, les fameux référents de sites de compostage, c'est-à-dire des bénévoles qui vont un peu manager le compost dans leur immeuble. Donc ça peut être des sensibilisations d'une heure jusqu'à des formations de plusieurs journées, notamment celle de référent de site de compostage. Deuxième mission, c'est d'accompagner la mise en place de projets. Donc là, par exemple, je viens de gagner avec des collègues DM Compost, Organéo et Thierry Signe, le marché de la ville de Paris pour accompagner les immeubles dans ce processus de compostage. Je mets aussi en place dans des écoles. Ça fait 2 ans que j'accompagne le département de l'Eure pour la mise en place de composteurs dans des collèges. Troisième mission, ça peut être de conseiller les collectivités, par exemple pour lancer un plan compostage à l'échelle de leur territoire. Et la dernière partie, c'est la production éventuellement de contenu rédactionnel. Je suis un ancien communicant, donc j'adore ça. Ça peut être, par exemple, je suis le community manager du site jecompostenville.fr qu'a créé le SICTOM, le syndicat de traitement des déchets de plus de 80 communes d'Île-de-France. Et puis, la quintessence de cette partie-là, c'est le bouquin que j'ai écrit.
Voilà, chez Rustica, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Composter en ville. Est-ce qu'on arrive à faire un petit peu la somme, justement, des immeubles, par exemple, en France, qui ont un compost aujourd'hui ?
Je fais partie d'une association qui s'appelle le Réseau Compost Citoyen, qui a créé un outil qui s'appelle Géocompost. Alors aujourd'hui, on a référencé à peu près 3500 sites de compostage partagés. À Paris, il y a 439 immeubles qui en font, plus de 800 sites, si je prends en compte les écoles ou les sites institutionnels. Ouais. Donc c'est vraiment une pratique qui s'est largement développée dans les 10 dernières années.
Pourquoi les gens sont motivés par le compost collectif aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ressort finalement ? On a l'impression que la prise de conscience environnementale est très très récente. Ça fait un an ou deux, vraiment en tout cas, pour le grand public. Ça se voit aussi dans cette volonté.
Clairement, les choses n'avancent jamais assez rapidement. Mais quand j'ai lancé le premier compost de quartier, puisque c'est aussi un de mes faits d'armes, en 2014, les gens exprimaient verbalement ces choses-là en disant « je souffre de jeter cette matière dans la poubelle ». Il exprimait vraiment avec ces mots-là. Donc souvent c'est le premier geste écologique qu'on peut faire au quotidien, de se dire que ce n'est pas un déchet, c'est une ressource. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que dans le compostage partagé, on va créer du lien social. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'avais pas imaginé quand je me suis lancé là-dedans. Pour moi, c'était plutôt le geste écologique qui m'intéressait. Et aujourd'hui, cette création de lien social, c'est vraiment ce qui me fait aussi vibrer. Moi, dans mon immeuble, ça fait maintenant 10 ans, on a créé un jardin partagé à l'issue de ce compostage. On a même une chorale qui est une émanation de la première fête du compost qu'on avait lancée. Donc on vit mieux avec du compost collectivement que sans.
Le chant du déchet, alors vous nous le chanterez si vous voulez, Jean-Jacques Flasquel. En tout cas, vous êtes notre invité cet après-midi dans la Terre au Carré. Il y a des questions pour vous, elles sont nombreuses déjà. Vous allez nous donner des conseils aussi peut-être pour essayer d'avancer. On verra peut-être les limites aussi des composts collectifs. En tout cas, on peut vous appeler au 01 45 24 7000 et puis également vous joindre sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À tout de suite.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille passe au vert et Camille Cronier, les municipales à Paris commencent déjà à vous faire tourner la tête.
Alors j'appellerais bien la campagne « Plus écolo que moi, tu meurs » vu la bataille qui se joue autour de la question environnementale et surtout de l'affichage de cette question. Les candidats n'ont qu'un mot à la bouche, Mathieu, donc l'écologie. Alors on pourrait dire logique pour David Béliard, candidat Europe Écologie Les Verts, qui reconnaît cette bataille d'un nouveau genre.
C'est un peu l'écologie, l'étiquette miracle pour gagner une élection, et notamment pour gagner l'élection à Paris.
Alors là, il réagissait à la déclaration de Cédric Villani, le soir de l'annonce de sa candidature la semaine dernière. Une déclaration plutôt franche.
Je veux être le premier maire véritablement écologiste de Paris.
Voilà, tout simplement, oui. Parce que pendant que Benjamin Griveaux, lui, il dit quoi, Benjamin Griveaux? Attention, c'est court.
La question centrale. Elle est centrale pour la question écologique.
Voilà, la question écologique au centre pour lui aussi. Vous êtes d'accord, on est un peu paumé, d'autant que la maire actuelle, Anne Hidalgo, qui n'est pas encore officiellement candidate, fait elle aussi de l'écologie sa priorité. Les voies sur berge aux piétons, les pistes cyclables, les journées sans voiture.
Nous sommes engagés sur la transition écologique et nous ne lâcherons rien.
Ils ont des combinaisons, tous, vous croyez, Mathieu?
Mais pourquoi faire?
Eh bien, pour ça. Pour la grosse compétition de surf sur la fameuse vague verte, ils sont partis, la capitale, c'est le spot avec, au printemps dernier, presque 20% des voix pour les écolos européennes, quand la moyenne nationale était à 13,5%. S'afficher en vert est donc essentiel, et Jean-Christophe Hall, qui est spécialiste en communication, me l'a confirmé.
L'utilisation du facteur écologie ou environnement dans une offre, qu'elle soit politique, marketing, commercial ou produit, est une utilisation tout à fait pragmatique. C'est aujourd'hui une condition indispensable pour, à un moment donné, arriver à capitaliser un électorat.
Du pragmatisme, donc. Isabelle Vera Masson, directrice de recherche en communication politique au CNRS, parle, elle, carrément de vente.
Le principe de base, quand même, de la politique, c'est de vendre son produit. Sinon, on n'est pas élu. Si vous n'êtes pas élu, vous ne ferez pas appliquer vos idées. Si vos idées sont sincères ou pas, d'ailleurs, il faudra passer par l'élection, donc par la vente. C'est du marketing. Faire passer l'idée que votre produit, c'est-à-dire vous, et meilleur que les autres.
Ah ben, du coup, j'ai essayé de comprendre leurs arguments de vente à ces candidats. Alors, on y va. David Béliard, il dit quoi pour montrer qu'il est le meilleur?
L'écologie, c'est pas juste en fait une petite étiquette marketing qu'on prend parce que y a un contexte politique particulier. L'écologie, c'est aussi une histoire de cohérence, c'est une histoire aussi de courage. Et moi, je ne vois personne d'autre que les écologistes qui se battent sur le terrain.
Le courage et le terrain, argument Europe Écologie Les Verts, c'était sur France Info. Benjamin Griveaux, lui, a un argument aussi solide et alors totalement inédit.
Faire ce qu'on dit. Juste ça.
C'est ça, c'est votre valeur ajoutée.
Quand vous êtes maire, les déclarations c'est bien, les actes c'est mieux. Pour moi, ce sera les actes. Moi, je cherche pas l'étiquette. Je veux du concret et du réel. Donc, c'est bien d'annoncer qu'on sera le premier maire écologiste ou le deuxième. Je m'en fiche.
Et vous avez entendu le gentil clin d'œil à son copain Villani. Alors, lui n'a pas voulu se mettre en opposition avec ses rivaux. En quoi vous êtes plus écologiste que messieurs Griveaux ou Béliard?
Quand je dis premier maire écologiste, ça veut dire évidemment par référence au précédent, le premier dans l'histoire.
Oui, mais ce qui voudrait dire que vous êtes du coup le candidat le plus écologiste, si je suis la logique.
C'est pas une comparaison par rapport aux autres.
Ah non, il veut pas. Enfin, 5 minutes plus tard, le voilà quand même en train de finir de me dérouler son CV du parfait écolo crédible.
Si vous allez voir Al Gore, vous demandez Villani, développement durable, vous dira oui, je l'ai invité, on a discuté ensemble. Allez voir tous les autres candidats et demandez-leur, est-ce que vous avez fondé quelque chose d'écologiste à l'Assemblée? Est-ce que vous avez écrit un rapport dans lequel on parle d'écologie? Est-ce que les Verts allemands vous connaissent? Est-ce que vous étiez à l'origine l'un de ceux qui ont invité Greta Thunberg? Faites-le l'un après l'autre et vous verrez les réponses.
Et toc, quant à Anne Hidalgo, son service de presse m'a complètement ignoré, même pas une réponse. On va dire que c'est parce qu'elle n'est pas encore dans la compète, mais je suis sûre qu'elle aussi a une petite musique en tête. Sur la vague verte. La vague verte.
Voilà, et Camille passe au vert, c'est à réécouter évidemment sur franceinter.fr.
Jean-Jacques Fasquelle, lequel vous convainc le plus de ces candidats tous écolos?
Vous allez avoir le choix là.
Ouais.
C'est sûrement celui qui est vraiment écolo, c'est sûrement celui qui est chez les Verts. Mais de toute façon, il faut juger sur les actes.
Ce serait quoi la première mesure que vous attendriez vous par exemple?
Au niveau de quoi?
De
mon sujet?
Du maire?
À Paris.
Je pense que Ce qu'il faut regarder, c'est quelles sont les pollutions, les impacts carbone. Donc, en l'occurrence, c'est surtout les immeubles qui produisent beaucoup de CO2. Donc, de déployer encore plus de l'isolation d'immeubles dans Paris, ce qui commence à se faire. Parce que dans mon immeuble, on est en plein travaux de
transition.
Ce type. Voilà.
En tout cas, si vous avez envie de monter un compost collectif dans votre quartier, dans un instant, donc notre maître composteur Jean-Jacques Fasquelle répond à toutes vos questions. 01 45 24 7000.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris. Sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage. Derrière, I'm 50s, I'm 50s. Dans le radiola, André Verschuren, les enfants soldats dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle sur la route ravie, en arrond de plein ciel qui rentre à Paris. I'm 50s, rue Campagne Première, personne le ramasse quand il tombe par terre. Qu'est-ce que c'est dégueulasse au salon de l'auto sous le dos. Touche pas au Grisby du con dans sa vedette Vendôme, Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure, dans le train Mistral, y a un coiffeur. I'm 50s, I'm 50s. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard, I'm 50s. Monique, frégate, transfluide, vedette, abeille, Patrick, I'm 50s. Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux Renault. Quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz, une légère brise.
I'm 50s, premier extrait de son tout nouvel album, Alain Souchon à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Avec notre invité maître composteur Jean-Jacques Fasquelle et vos questions déjà très nombreuses au standard de France Inter, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, le mot-clé l'attaque et également franceinter.fr sur la page de la Terre au carré. Et nous allons accueillir tout de suite Bernadette qui est en ligne. Bonjour Bernadette.
Bonjour.
On vous écoute.
Je suis contente que vous preniez ma question. Et je voulais donc demander deux choses. Tout d'abord, je ne sais pas vraiment si on doit arroser le composteur.
Très bien. Alors Bernadette...
Parce que je trouve que l'intérieur est très sec et je ne sais pas si je dois mettre de l'eau de temps en temps.
Alors Jean-Jacques Fasquelle, on peut répondre à cette première question.
Alors, oui, donc on doit avoir un certain taux d'humidité. On peut faire un test, le test de la poignée, c'est-à-dire on prend de la matière en décomposition, on presse très très fort. Si ça coule à grande eau, c'est trop humide. Si rien ne coule, c'est trop sec. Et normalement, il doit y avoir des petites gouttes qui perlent, un peu comme une éponge déjà essorée. Donc là, en l'occurrence, si vous me dites que visuellement, vous voyez qu'il est trop sec, effectivement, il faut arroser. Donc ça, c'est une bonne consigne, notamment pour le compostage domestique quand on est à la campagne. En ville, en compostage partagé, étant donné qu'on composte majoritairement des déchets de cuisine qui sont pleins d'eau, souvent, on va très peu arroser en ville parce qu'on a que des déchets de cuisine, alors que Bernadette, a priori, a beaucoup de déchets de jardin, j'imagine, et très peu de déchets de cuisine.
Voilà, c'est ça.
Mais le jus de compost, ça a une valeur en soi ou pas?
Alors, le jus, le percola, effectivement, qu'on récupère d'ailleurs dans les lombricompost, est un fertilisant très, très puissant.
Bernadette, votre seconde question?
Alors, ma deuxième question, c'est comment sait-on à quel moment le compost est prêt à être utilisé?
Alors, pour reconnaître un compost mûr, on regarde d'abord la couleur, il est noir. L'odeur, il sent l'humus forestier. La structure, il est grumeleux. Hein. Une fois que vous l'avez tamisé, c'est pratiquement de la semoule de couscous. Et puis surtout, ça ne grouille plus de verre. On ne reconnaît plus de déchets en décomposition. Voilà, vous avez à peu près tous les éléments.
Merci Bernadette pour votre question. Camille?
Alors, on a Jean sur les réseaux sociaux qui nous demande une question très pratique. Est-ce qu'il est conseillé de mettre les peaux d'agrumes, orange, citron, pamplemousse dans le compost?
Alors oui, ça c'est vraiment une idée reçue et on se bat d'ailleurs dans le réseau compost citoyen là, pour expliquer que oui, les agrumes se compostent, contrairement à ce qu'on entend dire un petit peu partout. Donc oui, Jean, il peut mettre ses plures d'agrumes là-dedans, il n'y a aucun souci. Alors souvent, les gens disent « oui, mais les agrumes traités, etc. » Alors ce qui est bizarre, c'est que les gens ne veulent pas mettre leurs agrumes traités dans leur compost, mais ils les mangent. Hein, donc si vraiment vous voulez vous passer de pesticides, ben, achetez des fruits bio.
Alak sur Twitter nous dit « je ne veux pas jouer les peines à jouir, mais le compost est émetteur de CO2 et souvent très aléatoire. La vraie solution est la pyrolyse, combustion sans oxygène, qui donne du biochar, j'espère que je le prononce bien, et de l'énergie. »
Alors, je suis pas spécialiste de la pyrolyse et du biochar. Néanmoins, sur le CO2, c'est vrai que quand on composte, on produit un petit peu de CO2. Alors, on a besoin toujours de mélanger, d'ailleurs, le compost, parce qu'on a, c'est une réaction qui se fait en présence d'oxygène. Mmh. Et c'est très important d'avoir effectivement cet oxygène. Sinon, on va au contraire faire de la méthanisation, qui peut être un choix de traitement de déchets. Mais quand on fait du compostage, on ne veut pas de produire de méthane, parce que ce méthane partirait dans l'atmosphère. Donc oui, on produit un petit peu de CO2, mais c'est léger.
Michel est en ligne avec nous. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'Alsace, je crois.
C'est ça.
On vous écoute.
Alors, moi je suis un élu en charge des déchets, et entre autres sur notre secteur, ça fait 10 ans que nous collectons entre autres en porte-à-porte le biodéchet que nous traitons de façon industrielle.
Vous êtes où exactement? Hein,
autour de Tannes-Cernay, en fait c'est un haricot autour de la ville de Mulhouse, mmh. Donc dans le Haut-Rhin. Et en fait, ma question, c'est connaître l'avis ou échanger avec votre invité sur l'articulation, justement, sur la complémentarité du compostage de proximité et de ce compostage industriel qui est fait à partir d'une collecte en porte-à-porte auprès de tous les foyers. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ciblé pas sur un immeuble ou sur une ville ou sur une partie. Mmh. Chez nous, c'est 160 000 habitants. Comme c'est fait d'ailleurs à Milan, Fribourg, Barcelone, enfin il y a plein d'endroits, chez nous en Alsace à Colmar. Alors je trouve que justement tout ce que vous propose votre invité, c'est vraiment très bien, puisque nous aidons également
mais
à cette prévention en installant également en accompagnant des composteurs, par exemple dans des centres sociaux, personnes âgées, mmh. Des choses comme ça. Mais pour nous, ce n'est qu'une infime partie en fait. Des 40 à 80 kilos de biodéchets que produisent les Français et Françaises en moyenne par an. Quoi.
Donc vous pointez les limites du compostage collectif tel qu'on décrit là avec notre invité, c'est ça?
Voilà, ces limites. Alors souvent on oppose, oui mais en ville c'est pas la même chose qu'à la campagne. Mm-hmm. Je trouve que nous avons aussi bien des quartiers dits sociaux que des petites communes et nous collectons à peu près la même chose. Mais nous continuons bien sûr à faire la promotion d'un vrai compostage, et c'est bien cette professionnalisation dont parle votre invité, pour ne pas avoir des pourrissoirs en fond de mmh. jardin qui dégagent du méthane, ce qui est une vraie catastrophe.
Alors, Jean-Jacques Fasquelle vous répond, Michel.
C'est une très bonne question. Pour moi, il y a une complémentarité, c'est-à-dire que c'est toujours mieux de composter en proximité. C'est-à-dire d'abord, j'ai la chance d'avoir un jardin, je fais du compost dans mon jardin à titre individuel, comme Bernadette, on l'a entendu tout à l'heure, ou comme moi dans mon immeuble. Si je peux pas le faire dans mon immeuble, j'essaie d'aller un petit peu plus loin, je fais du compost de quartier. Et si vraiment ce n'est plus possible, eh ben je mets en place effectivement une collecte sélective de biodéchets. Donc les choses sont complémentaires, mais vous êtes toujours beaucoup plus motivé, intéressé et enthousiaste quand vous le faites en proximité vous-même ou avec des collègues que de faire collecter vos biodéchets, parce que quand il y a une collecte de biodéchets, vous abandonnez votre déchet. Donc loin des yeux, loin du cœur, vous n'y pensez pas. La ville de Paris vient de attester dans les deux dernières années la collecte sélective de biodéchets dans le 2e et le 12e. Elle va lancer le 19e et ça va se généraliser. Et il faut le faire parce que dans une ville aussi dense que Paris, on ne pourra bien sûr pas absorber tous les biodéchets en compostage de proximité. Mais il y a une complémentarité. C'est d'abord le compostage de proximité, puis pour ce qu'on ne peut pas traiter de cette façon-là, une collecte sélective. Ouais. Mais attention, c'est souvent dans des territoires très ruraux qu'on a lancé des collectes sélectives de biodéchets, alors que là, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque c'est beaucoup de transport pour pas beaucoup de volume, et que là, il faudrait au contraire favoriser le compostage de proximité.
Alors, on a des questions aussi sur comment convaincre, en fait, sa copropriété, par exemple. On a Lisa qui nous dit « Moi, j'ai pas réussi à convaincre ». Pierre qui demande si vous avez des conseils pour argumenter en faveur d'un dispositif de compostage.
Alors, les conseils, c'est éventuellement de leur faire visiter des sites qui compostent déjà. Quand la ville de Paris s'est inspirée de mon expérience, ils sont venus voir et beaucoup d'élus sont venus voir et tout de suite, ça éclaire, puisqu'on se fait toute une histoire, on a une appréhension et quand on voit comment ça fonctionne, tout de suite, on est convaincu. Il y a pas mal de vidéos aussi sur Internet qui peuvent permettre de montrer que c'est possible et tout ça se fait dans la bonne humeur.
Et puis on met des liens sur le site de la Terre au Carré, évidemment, pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Mina est en ligne également. Bonjour Mina.
Oui, bonjour. On vient de me dire de faire vite. J'ai peur que mon composteur que j'ai dans un jardin se soit transformé en élevage de moustiques.
Ah ouais, pas terrible.
Alors, vous parlez sûrement des petits moucherons. Alors, donc là, un petit truc. Hein. Quand on dépose ses biodéchets, il y a un ordre spécifique. Je dépose mes biodéchets, je mélange avec la couche inférieure et ensuite, je recouvre de matière sèche. Hein, souvent, ça, c'est une règle d'or qui est souvent oubliée par la majorité des gens. Composter, c'est pas simplement mettre des biodéchets dans un bac. Hein, il faut faire un équilibre avec ce qu'on appelle la matière brune, dure et sèche, des feuilles d'automne, du bois broyé. Et donc, à chaque apport, on doit recouvrir les biodéchets de cette matière sèche. Donc, non seulement ça va vous faire l'équilibre de matière entre le carbone et l'azote, mais en plus, ça évitera aux petits moucherons de venir pondre sur votre nourriture.
Et pour les rats, il y avait des questions aussi sur les rats, par exemple.
Alors, on peut pas dire que c'est les composteurs qui attirent les rats. Si vous êtes dans un environnement néanmoins où il y a des rats, on peut éventuellement s'en prémunir en mettant une grille sous votre composteur pour pas que les rats viennent à l'intérieur. Et puis, plus vous mélangerez votre composteur, et plus les rats seront dérangés et ne viendront pas dans votre composteur. Mais je peux vous assurer que dans ma petite dizaine d'années de pratique, il y a un seul site où j'ai vraiment vu des rats envahir un composteur.
Et comment vous en débarrasser de façon écologique
En mettant des grilles, en remuant allègrement et pourquoi pas aussi en piégeant quand même un petit peu quand on est envahi.
Rodolphe est avec nous. Bonjour Rodolphe.
Oui, bonjour. En fait, ma question est très simple. J'ai un composteur, donc ma question c'était qu'est-ce qu'on peut mettre dans un composteur et surtout ce qu'on ne doit pas mettre dans un composteur.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'absolu, tout ce qui est issu du vivant, on peut se composter. Néanmoins, pour un néophyte, on va composter les restes de fruits et légumes, le marc de café avec le filtre, le sachet de thé, les coquilles d'œufs écrasées, le bouquet de fleurs. On a les restes de riz et de pâtes. Alors, qu'est-ce qu'on met pas? Ce qui ne se composte pas, c'est-à-dire la poussière d'aspirateur, le plastique,
Il y a des choses toxiques. Vincent nous demande par exemple les lauriers roses. Il dit c'est toxique. Est-ce que je peux ça par exemple?
Oui, alors à nouveau dans les déchets de jardin, il y a une grande règle d'or. On veut toujours bourrer son composteur avec des déchets de jardin. Le meilleur traitement pour les déchets de jardin, c'est de les broyer et d'utiliser en paillage au jardin. Donc ce paillis de laurier, enfin ce broyat de laurier, on va aller le remettre au pied des lauriers qui lui va beaucoup apprécier cette essence.
Jérôme sur la page Facebook de la Terre au Carré. Composter c'est bien, mais pour en faire quoi finalement après du compost?
Alors le compost, deux grandes vertus. Hein. C'est tout d'abord un engrais naturel formidable. Et puis ça va aussi amender votre sol. C'est-à-dire ça va améliorer votre structure du sol. Si votre sol est très sableux, il va retenir un peu plus l'humidité. Au contraire, s'il est argileux, ça va l'alléger.
Et puis enfin, les conseils de Philippe qui nous écoute. Pensez à dire que le compost se fait rapidement rapidement quand les biodéchets sont coupés fins. C'est vrai ça ?
Bah, plus vous coupez fins, plus il y a de surface d'attaque pour les bactéries et plus effectivement ça va accélérer le processus, hein, puisque là, les bactéries sont quand même le premier organisme qui va boulotter et décomposer nos biodéchets.
Ouais. On avait un petit message de la Nouvelle-Zélande, je crois, Camille.
Oui, il
tout
y a
hein.
Elisa sur Facebook qui elle dit en Nouvelle-Zélande, les résidences sont quasiment tout équipé. Elle dit à Auckland, 50% des déchets sont compostables. Et donc, elle dit qu'il faudrait que ce soit le cas partout.
C'est formidable. Je suis de temps en temps consulté par des architectes pour des nouveaux programmes où ils veulent insérer
Et pas d'odeur pour les composts d'intérieur comme ça non plus? Question d'auditeur.
Alors, donc là, vous parlez du lombricomposteur, hein, qui est une technique hors sol de compostage dans des bacs qui sont empilés. À nouveau, si tout est bien maîtrisé avec un équilibre, il n'y a pas d'odeur.
Merci beaucoup, Jean-Jacques Fasquelle. Hein. On met évidemment plein de liens sur le site de la Terre au carré, et puis on peut signaler ce livre, Composter en ville, que vous avez publié l'année dernière chez Rustica Édition. Merci d'être venu nous voir.
Merci.
Juste après les infos, vos solutions pour la planète, avec aujourd'hui Nicolas, un auditeur de Grenoble qui parcourt les Alpes en parapente pour mesurer les taux de pollution.
France Inter. La Terre au carré.
Et dans quelques minutes, notre reporter Guy Van Til nous emmènera en Islande pour le premier épisode de sa série de reportages. Et puis notre invitée découverte, Inès Léraud, viendra nous parler d'une enquête sous forme de bande dessinée autour des algues vertes. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète. Et nous sommes en ligne avec vous aujourd'hui, Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bienvenue, vous êtes à Grenoble, vous êtes scientifique et parapentiste. Dans quel domaine des sciences est-ce que vous travaillez, Nicolas, d'abord ?
Alors, je me suis spécialisé en sciences du climat et de l'environnement, et pour étudier donc toutes les questions en relation avec l'équilibre de notre planète et les solutions pour préserver cet équilibre.
Alors, présentez-nous cette association En l'air pour la Terre que vous avez créée en 2015.
Ouais, donc l'association En l'air pour la Terre, c'était vraiment pour vulgariser les thématiques en lien avec le dérèglement climatique sur les réseaux sociaux, en allant à chercher un public qui n'irait pas de lui-même s'intéresser à ces questions-là. Et pour cela, en fait, j'ai décidé de réaliser des interviews courtes, simples et impressionnantes de scientifiques qui travaillent sur ces sujets. Mais au lieu de le faire de façon classique dans une salle de laboratoire, par exemple, je les emmène en vol avec moi en parapente biplace.
Voilà, alors on peut regarder, moi j'ai vu les vidéos, hein. Ils sont courageux vos interviewés, parce que dites donc, il faut le faire. Je ne sais pas si j'accepterais, moi, de répondre à une interview en parapente. Vous, Camille, vous aimeriez...
Oui, j'en ai déjà fait, c'est assez rigolo, mais c'est vrai qu'il faut être concentré à la fois sur ce qu'on dit et regarder un peu autour.
Et en plus, c'est l'invité qui tient la perche pour l'interview, hein. C'est ça, Nicolas?
C'est ça exactement. En fait, c'est vraiment une concentration, mais finalement, en fait, quand les invités ils commencent leur discours, leur interview, ils se rendent même plus compte qu'ils sont en vol, en fait.
Ouais. Donc ça, c'est pour faire parler de science, évidemment. Et puis l'autre aspect de votre travail et de votre passion avec le parapente, c'est de pouvoir avoir une sorte de laboratoire aérien pour mesurer les taux de pollution dans les Alpes, entre autres. Hein.
Ouais, c'est ça. En fait, on a transformé le parapente en un véritable laboratoire volant en ajoutant des capteurs de qualité de l'air avec donc les scientifiques de l'Université de Grenoble-Alpes. On mesure le parapente, c'est un outil formidable parce qu'on peut se déplacer non seulement verticalement, mais aussi horizontalement dans les différentes couches de l'atmosphère, et on peut réaliser des mesures à la différence d'une station fixe ou d'un ballon sonde, on peut vraiment faire des mesures dans toutes les couches de l'atmosphère.
Donc le parapente est plus fort que toutes les technologies qui existent et qui ont été développées.
Non, l'idée c'est que ça soit vraiment complémentaire. On utilise le parapente avec des stations fixes, avec des ballons sondes. Et l'idée c'est que les mesures qu'on peut réaliser en parapente, elles peuvent être complémentaires avec d'autres mesures qui sont réalisées par des stations fixes ou des ballons sondes. Et tout cela permet en fait de créer des cartes de polluants et vraiment d'avoir une meilleure idée des sources de ces polluants atmosphériques pour ensuite trouver les bonnes solutions qui sont adaptées pour réduire ces polluants atmosphériques.
Ouais. Et ça, vous êtes tout seul à le faire, Nicolas, pour l'instant ou pas?
Ça, on le fait avec les scientifiques de l'Université de Grenoble et en partenariat avec d'autres associations.
Et vous sortez combien de fois par semaine ou par mois parce que ça doit varier la pollution de l'air en particulier?
Voilà, tout à fait. L'idée, c'était vraiment de voir avec les scientifiques le dispositif qu'on pouvait mettre en place pour avoir un dispositif qui soit vraiment prêt et fiable en hiver où il y a vraiment ces pics de pollution qui atteignent leur paroxysme à cause des phénomènes de couches d'inversion dans les vallées alpines en hiver.
C'est quoi les couches d'inversion exactement ?
Alors les couches d'inversion, en fait, c'est comme dans la vallée de l'Arve, par exemple, où tous les polluants qui sont émis dans cette vallée alpine vont rester bloqués sur une dizaine ou une centaine de mètres, rendant vraiment la qualité de l'air très mauvaise dans ces vallées alpines.
Donc vous, Nicolas, avec vos capteurs, vous essayez de recueillir des données donc pour essayer d'estimer un peu l'impact à la fois de la pollution, mais aussi du réchauffement climatique, hein, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. L'idée, c'est on utilise les capteurs donc pour voir les sources de pollution et parler de la qualité de l'air dans les vallées alpines, mais aussi on fait tout un travail de sensibilisation et on va rencontrer les femmes et les hommes qui proposent des solutions concrètes, non seulement pour lutter contre la pollution atmosphérique, mais aussi pour lutter contre le dérèglement climatique et préserver l'environnement.
Alors, vous m'avez juste pas dit combien de fois vous y allez quand même. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous y allez tous les jours, toutes les semaines?
On y va presque tous les jours, en fait. Dès qu'il y a une météo qui est propice au vol, on peut voler soit en fin d'après-midi, soit vraiment tout début de matinée avant d'aller au travail.
Vous êtes malin quand même, Nicolas, parce qu'on sent bien le gars passionné par le parapente qui se dit, bah, tiens, tant qu'à faire, parce que je suis aussi scientifique.
Autant allier les deux. Et puis en fait, il est en parapente en train de nous parler, ça se trouve.
Ah, peut-être.
Voilà, l'idée, donc, c'est vraiment de concilier deux choses. Donc, c'est la passion pour le parapente et aussi pour les solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que quand on vole, quand on est au-dessus de ces magnifiques montagnes, on se dit vraiment que c'est que la nature est vraiment belle et qu'il faut la préserver parce qu'elle est aussi fragile.
Quels sont les résultats que vous avez obtenus alors autour de la pollution? Parce que c'est vrai qu'on l'évoque de plus en plus dans les Alpes et les effets du réchauffement également, avec la fonte des glaciers en particulier, hein, mais il n'y a pas que ça.
Oui, tout à fait. Il y a aussi les Alpes. Donc, c'est vraiment l'un des territoires les plus sensibles aux effets du dérèglement climatique en Europe, avec un réchauffement qui est deux fois plus important que dans d'autres zones de plaine, par exemple. Et ce qu'on voit, c'est donc il y a le recul des glaciers, comme ce que vous disiez. Il y a aussi tous les écroulements en haute montagne. Il y a de plus en plus d'écroulements dus à la fonte du permafrost, donc qui était le ciment qui tient tous les blocs ensemble. Mmh. Et il y a aussi plein d'autres dangers sur les écosystèmes, sur les pertes de biodiversité. Et ça, c'est ce qu'on veut montrer avec notre documentaire « Il faut sauver les Alpes ».
Voilà, et vous allez tourner, vous êtes en plein tournage, hein, vous avez des choses, le premier épisode qui va sortir bientôt, je crois. Hein.
C'est ça, donc le documentaire « Il faut sauver les Alpes », c'est un documentaire que je fais avec Heidi Sevestre, qui est glaciologue. Mmh. Et on veut montrer vraiment donc ces solutions qui existent, et le spectateur qui regarde ce documentaire, il va sortir de ce documentaire en se disant, bah voilà, moi, peu importe ma situation, dans ma vie personnelle, professionnelle ou associative, je vais pouvoir piocher dans ce catalogue de solutions et contribuer à préserver l'environnement.
Et ça sortira sur Ushuaïa Télé, hein, au mois de novembre.
Fin novembre 2019 et au Festival de Cannes en 2020.
Merci Nicolas, on peut aller sur le site de votre association, nicolasplein.fr, hein. Il y a les liens évidemment vers l'association et pour savoir exactement ce que vous faites avec ces capteurs et votre parapente. Merci beaucoup à vous.
Merci
pour,
à vous.
Et bon vol.
Ces informations, merci beaucoup. À bientôt. Qui vont-ils vivre dans un monde qui fond? C'est le titre de cette série de reportages que vous nous proposez toute cette semaine dans La Terre au Carré, en nous emmenant au Groenland et en Islande, où se passe le premier épisode Requiem pour un glacier.
Oui, parce qu'un nouveau rituel y a été inventé cet été. Une cérémonie en mémoire du premier glacier officiellement déclaré mort du fait du réchauffement climatique. Le glacier Ökjökull.
Bravo.
C'était son nom, j'ai beaucoup répété pour le faire, oui. Il faisait plus de 15 km² en 1914, et en 2014, il ne recouvrait plus que 700 m², quand les glaciologues l'ont déclaré dead ice, dead. Ça veut dire glace morte. Alors le 18 août dernier, des personnalités politiques, des chercheurs et des citoyens s'y sont retrouvés pour réfléchir à la signification d'un tel événement. All right, you ready? Thank you. Nice trip.
Everyone, I'm really thrilled to have you all on board with us to go see where Ökjökull used to be.
En memoria de un glaciar muerto.
Iceland has unveiled a plaque to its Ökjökull ice sheet.
Ökjökull glacier.
Ökjökull.
Ökjökull.
Yes.
Ökjökull.
The glacier that has been declared dead. Iceland's Prime Minister Katrín Jakobsdóttir was among those who attended the ceremony.
Katrín Jakobsdóttir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la première ministre écologiste de l'Islande. Vous avez tenu à venir aujourd'hui pour cette cérémonie qui va avoir lieu pour ce glacier disparu.
I think this moment today has a great significance.
Je crois que cette journée est d'une grande importance.
Because it really shows us that what the scientists have been predicting now for years.
Parce qu'on voit ce que les scientifiques nous ont prédit pendant des années se réaliser devant nous.
We see the first Icelandic glacier actually disappearing.
On voit le premier glacier islandais qui disparaît.
According to predictions, we are going to see many other glaciers disappearing.
Et d'après les prévisions, nous allons en voir d'autres connaître le même sort dans les prochaines décennies.
We see this face of the climate crisis here.
Voilà le résultat de cette crise climatique chez nous.
So we see heat waves floods, droughts.
Mais ailleurs dans le monde, ce sont des canicules, des inondations, des sécheresses.
But it's already happening.
C'est en train d'avoir lieu.
So we have to acknowledge that fact.
Nous devons donc accepter cette réalité
to take action now.
Et nous engager pour agir maintenant.
Merci beaucoup. Ils sont en train de partir, alors il faut qu'on y aille parce que sinon on va rater la randonnée.
Thank you very much.
Voilà maintenant, une escalade au flanc de volcan Hawk. D'ailleurs, on marche dans la neige. Mais je suis compact et dur. Dans laquelle je m'enfonce. Voilà, un petit ruisseau surgit. C'est de l'eau de glacier. Ce qui reste du glacier Oukjokul qui est en train de fondre et de dévaler la pente.
My name is Oddur Sigurðsson. I've been following and monitoring glaciers for more than 3 decades.
Voilà plus de 30 ans que vous surveillez les glaciers.
Glaciers, they contain history. They are
les glaciers contiennent de l'histoire.
They contain layers of snow, annual layers.
Chaque année, des nouvelles couches de neige s'accumulent.
One on top of the other.
L'une au-dessus de l'autre.
And we can read from these glaciers through the ages.
En étudiant les glaciers, on peut lire vraiment à travers toute son histoire.
When the glaciers melt, this history is lost.
Et quand les glaciers fondent, comme c'est le cas d'Okyokul, cette histoire-là disparaît.
It is like burning our manuscripts.
C'est comme si on brûlait nos manuscrits.
So this is what we're going to do when we're saying goodbye to this glacier. We will make a single line here. So walk in silence, don't look back, and you will be granted 3 wishes. Thank you.
Et voilà, on se remet en route après une courte pause. Presque à la cime du glacier, et là, les participants de cet étrange cortège se mettent en route à la queue leu-leu, les uns derrière les autres, en silence, pour une cérémonie d'adieu. C'est un nouveau rituel qui est en train de s'inventer ici en Islande, le rituel de la fonte des glaciers à cause du réchauffement climatique qui s'accélère. C'est peut-être la première cérémonie de ce genre d'une longue série.
My name is Andris Nær Magnusson. I'm a writer.
Je m'appelle Andris Nær Magnusson. Je suis écrivain. C'est moi qui ai écrit ces mots en mémoire du glacier.
Est-ce que vous pourriez me lire ce que vous avez écrit?
So, a letter to the future.
C'est une lettre pour le futur.
Ok is the first Icelandic glacier to lose its status as a glacier.
Ok est le premier volcan islandais à perdre son titre de glacier.
In the next 200 years, all our glaciers are expected to follow the same path.
Au cours des 200 prochaines années, tous nos glaciers risquent de connaître le même sort.
This monument is to acknowledge that we know what is happening.
Ce monument est là pour affirmer que nous savons ce qui est en train de se passer et ce qu'il faut faire.
Only you know if we did it.
Vous seul saurez si nous y sommes parvenus.
So this is a message to people 200 years from now that
c'est un message pour les gens dans 200 ans, eux qui verront peut-être la fonte des derniers glaciers.
We have to manage this.
Et c'est ça qu'il faut changer.
Voilà, Give, pour ceux qui souhaitent assister à cette cérémonie, on peut retrouver une version vidéo d'ailleurs de votre reportage sur le site de France Inter à la page de la Terre au Carré.
Ouais, et demain, la prochaine étape à Nuuk, 17 000 habitants, capitale du Groenland, où les paquebots de luxe font la queue pour voir les icebergs fondre.
Merci Guy Vanctil. À demain, dans un instant, une grande enquête en forme de bande dessinée sur l'histoire interdite des algues vertes avec mon invité découverte, Inès Leroux.
Don't be getting nigga feelings. All I do is kill.
dime, even when I'm tripping. I'm Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days. Never been a punk, trust you can get it in the worst way. May as well get a birthday cake and it ain't even my birthday. Cause when I switch, then they wanna say that I'm a.
You're not listening, you're not listening. I said it with my chest and I don't care who I offend.
Came through swinging at the gate on a mad one, no. Stepping to the kid trying to bring it, I promise you'll have no luck. You sold out for a quick buzz and honey you got no love. No less than what I know that I'm worth and I won't budge. In and out the doorways, jugging, jugging through the broad day. And anywhere would I be now if I went in none of your way? I've been exhausted, man, I think I need a tour break. Might take a trip to the Philippines and my Spanish boy Jorge. Hold on my plug, like I'm back in town and I need an ounce, give me more place. Take mom on the street, like it, anything you want, this is your day. I follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'm probably any caprice and it's never right, I'm honest. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like Narsings won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a b-
Little Sims Offense.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Et l'invité découverte comme chaque jour pour terminer cette Terre au carré. Les algues vertes, l'histoire interdite, c'est une bande dessinée qui est sortie en mai dernier, qui connaît un grand succès. Inès Leroux, vous en êtes l'auteur avec le dessinateur Pierre Van Hove. Bonjour.
Bonjour.
Vous en êtes à combien de rééditions là?
Alors là, on est à la quatrième réimpression, donc ça va faire 27 000 exemplaires imprimés.
Bravo.
Depuis le 12 juin.
Ouais. Les Bretons l'achètent massivement ou c'est vraiment dans toute la France?
C'est la moitié des acheteurs, c'est en Bretagne.
Vous êtes journaliste indépendante, documentariste et vous avez donc mené l'enquête autour de ce scandale, on peut le dire. Celui des algues vertes, qui a fait plusieurs victimes en Bretagne, du côté des hommes d'ailleurs comme des animaux. Comment est-ce que vous en êtes arrivé, vous, à vous intéresser à ce sujet d'abord?
Alors c'est en me passionnant pour l'agriculture, je me suis orientée vers la Bretagne, qui est vraiment l'atelier de lait et de viande de la France, comme ça a été proposé par le gouvernement de Gaulle après-guerre.
Ouais.
Voilà. Et donc sur ce petit territoire français qui représente 6% de la surface agricole en France, eh bien il est produit la moitié du lait et de la viande.
Au point de vous installer en Bretagne pour vraiment mener l'enquête à fond, c'est ça?
Voilà, au point que je m'installe en Bretagne en 2015, je vais y rester 3 ans et c'est lors de cette installation, au tout début, qu'on va me parler des morts humaines sur les plages bretonnes à cause des algues vertes, ce dont j'avais jamais entendu parler.
Vous dites que le café breton, c'est le meilleur endroit pour récolter des infos, hein.
Oui.
C'est vrai?
Oui, en fait, au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer parce que les agriculteurs, je vivais dans un village agricole entouré de plusieurs élevages intensifs et les agriculteurs étaient très méfiants vis-à-vis de mon installation dans leur village. Et petit à petit, j'ai réussi à conquérir la confiance des gens. Parce que j'avais pas internet chez moi, je suis allée travailler au café tous les jours. Et là,
les relations se sont
installées. Ouais. Voilà.
Vous parlez des agriculteurs parce que les algues vertes sont générées par l'agriculture?
Voilà, c'est ça. En fait, on découvre très vite, les premières marées vertes apparaissent en Bretagne en 71, après l'instauration de l'agriculture intensive dans la région au cours des années 60. Et on découvre très vite, l'Ifremer en tout cas, découvre que cette prolifération d'algues vertes, qui va jusqu'à donc produire des marées vertes, est liée à la fois aux lisiers animaux, qui en grande quantité sont épandus dans les champs en Bretagne, parce qu'il y a énormément d'animaux, comme on le disait au début, il y a une dizaine de millions de cochons en Bretagne, alors qu'il n'y a que 3 millions de Bretons. Et c'est dû aussi aux engrais qu'on met sur les cultures de maïs, de blé, etc. Ces cultures qui sont destinées à l'alimentation animale.
Donc finalement, on avait déjà toutes les informations sur ce problème d'intoxication depuis très longtemps ?
Oui, en fait, quasiment dès le début, toutes les informations sont là. En tout cas, la fin des années 80 est un moment clé, puisque Ifremer reconfirme que c'est vraiment l'agriculture intensive qui est la cause des marées vertes. Et la même année, Ouest France titre « Les algues vertes ont-elles tué ?» parce qu'un jogger de 26 ans porté disparu est retrouvé mort dans un amas d'algues vertes.
En 89, hein, Jacques Terrin, c'est son nom. Hein,
ouais,
ça a été la première victime à laquelle on a vraiment associé, parce qu'il y en a peut-être eu avant, mais qu'on n'a pas connu. Et
Exactement. Évidemment,
ces intoxications, elles sont dues à l'hydrogène sulfuré qui émane des algues vertes. Et on le sait ça depuis longtemps, effectivement. Sauf que ce que vous décrivez, et qui est passionnant aussi dans la BD, c'est toute la fabrique du mensonge, finalement, parce que ça dérange à la fois les agriculteurs, mais aussi le tourisme breton.
Voilà, ça dérange, exactement. Et donc, finalement, à partir des années 80, petit à petit, un lobby va se mettre en place. Il s'appelle l'ISTE, Institut Scientifique et Technique de l'Environnement, qui va être créé par des industriels de l'agroalimentaire, notamment Doux, Lactalis, Dossi, qui vont mettre à la tête de ce lobby des scientifiques qui vont, déconstruire ce qui a été apporté par la science et qui vont dire que à la fois les algues vertes n'ont pas pour cause l'agriculture, mais qu'aussi les algues vertes en putréfaction ne sont pas toxiques. Voilà.
Alors il y a un lanceur d'alerte, hein, aussi un des héros d'ailleurs de cette bande dessinée, c'est Pierre Philippe, qui existe vraiment dans la vraie vie, et qui finalement est un acteur très très important de ce dossier.
Hein. C'est un acteur clé, c'est un urgentiste à Lannion, et effectivement sans lui on ne saurait peut-être pas qu'il y a des morts des algues vertes, et lui il a recensé ces morts, en tout cas sur son territoire, dans les Côtes d'Armor. Et donc grâce à lui on sait qu'il y a au moins eu 3 accidents et 3 morts humaines, lié aux marées vertes.
Alors la bande dessinée démarre justement avec une discussion entre lui et Vincent Petit, qui est un homme qui était avec son cheval en 2009. Et on va l'écouter, Vincent Petit, puisqu'il témoignait à votre micro pour l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture. Son cheval est mort. Lui, il en a réchappé de justesse, visiblement.
Je m'approche d'un tout petit cours d'eau, vraiment un ruisseau qui s'appelle le Rosquat, qui débouche sur la Grève et qui la traverse. Et puis en approchant de son lit, à quelques petits mètres, tout d'un coup je m'enfonce dans une vasière qui était vraiment invisible comme ça en approchant. Donc je m'enfonce jusqu'au genou d'un coup, mon cheval qui était à côté de moi, pareil, met les antérieurs dedans. Donc il se projette dans la vasière, moi avec, puisque j'étais à côté de lui. Et ensuite, en quelques instants, il fait un arrêt respiratoire, c'est-à-dire que je le vois arrêter de respirer, planter la tête dans la vase. Et j'ai juste eu le temps de crier un ramasseur d'algues qui était sur son tracteur à quelques dizaines de mètres de venir nous aider. Et à partir de là, je garantis que c'était un rideau noir et que je n'ai plus aucun souvenir de comment ils s'y sont pris pour me sortir de là, me ranimer, me mettre dans une ambulance.
Voilà la voix de Vincent Petit, qui finalement mène aussi un peu l'enquête, lui, en tout cas donne des éléments très très importants.
Oui, oui. En effet, en fait, donc l'urgentiste Pierre-Philippe va lancer des alertes auprès de l'administration à partir de 1989. Et l'administration, l'État seront sourds à ces alertes pendant des années. Et en 2006, l'État se décide quand même à faire des analyses sur les plages, découvre qu'il y a en effet des taux mortels d'hydrogène sulfuré qui peuvent s'échapper de ces amas d'algues vertes en putréfaction. Mais ce rapport ne sera jamais rendu public et rien ne sera réellement fait pour préserver la santé du public.
Pourquoi il n'est pas rendu public par rapport aux industriels, par rapport justement pour pas faire peur au public, comme vous venez de dire?
Oui, en effet, il y a deux pôles économiques importants en Bretagne. Le premier, c'est l'industrie agroalimentaire et le second, c'est le tourisme. Et ça menace, ça risque de fragiliser en fait ces deux économies.
Alors justement, les ramasseurs d'algues, évidemment, ils sont très importants puisqu'ils sont directement exposés finalement à la toxicité. C'était le cas de Thierry Morfois, qui était employé dans une entreprise de ramassage, qui est décédé justement, avec là aussi des rebondissements sur son décès, sur l'autopsie demandée.
Oui, à chaque fois, en fait, ce sera très très difficile d'obtenir des informations. La première autopsie, 1989, Pierre-Philippe n'en aura jamais le résultat. Mmh. Et pour Thierry Morfois, les associations pensent, ont l'idée de regarder ce que contient le tube de sang qui est fait au moment où cet ouvrier a été retrouvé mort au volant de son camion de transport d'algues vertes pour voir son taux d'alcoolémie. Et donc ce prélèvement avait été fait pour le taux d'alcoolémie et on refait des analyses pour voir le taux d'hydrogène sulfuré qu'il contiendrait. Mais finalement, le procureur va dire que ce tube de sang n'a pas été conservé
à bonne température.
D'accord, et que donc c'est biaisé.
Le taux explosif d'H2S qui est trouvé dans ce tube de sang n'est pas lié aux algues vertes.
Où est-ce qu'on en est alors aujourd'hui? Est-ce que d'abord ces algues sont toujours présentes? Est-ce que ça prolifère? Quelles sont les mesures prises pour la sécurité des personnes?
En fait, déjà, moi je trouve que ce qu'il y a de très étonnant, c'est que l'État a la preuve donc depuis 2006 de ce danger. Il y a eu plusieurs scandales depuis, notamment celui du cavalier et de son cheval en 2009. Et aujourd'hui encore, il y a eu des morts sur les plages en Bretagne cette année. Il y en a eu une en 2016, vraiment dans un endroit où 36 sangliers étaient morts quelques années auparavant, où de grands instituts scientifiques avaient montré que la mort de ces sangliers était très certainement liée à l'hydrogène sulfuré des algues vertes. Et pourtant, sur ces corps, il n'y a toujours pas d'autopsie ou de recherche d'hydrogène sulfuré. Donc on ne peut pas constituer une connaissance de santé publique sur les atteintes de ce gaz et le nombre réel de victimes.
Et visiblement, ça concerne de plus en plus de lieux en France et dans le monde aussi.
C'est ça.
Il y a des signalements très clairs.
Avec le réchauffement climatique, avec le manque de pluie, l'eutrophisation, donc le manque d'oxygène dans les eaux et la prolifération des nutriments agricoles, le problème des algues devient un problème mondial dans les eaux douces et dans les eaux mères.
Voilà, en tout cas, c'est passionnant à lire parce que c'est sous forme de BD avec de très beaux dessins de Pierre Van Hove et c'est publié donc chez Delcourt dans la revue dessinée. Ça s'appelle Algues vertes, l'histoire interdite et c'est un grand succès largement mérité. Inès Leroux, vous en êtes l'auteur. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup Camille, on se retrouve demain.
Demain, oui.
Denis Delbecq était le rédacteur en chef de cette émission et Thierry Dupin pour la programmation musicale.